Quand j'étais enfant, ma mère me disait « Si tu deviens soldat, tu seras général. Si tu deviens moine, tu finiras pape. » J'ai voulu être peintre et je suis devenu Picasso. Mes amis de Barcelone m'ont appelé déjà sous ce nom. Il était plus étrange, plus sonore que Ruiz, et c'est probablement pour ces raisons que je l'ai adopté. Et qu'importe si les roues et le char et les grimaces, des soupirs de la lune mouronnent des bords. Et la cune, les champs de jasmin tressant en jet d'épée, ses cheveux mordorés. Si au réveil des ruisseaux sur le ciel, la marotte que les faux des draps du lit traînant ses tripes sur les briques, les taches éclaboussées des étoiles chères, les cocos bleus de la nuit, la pureté du dessin sur le violet de cobalt, brassant le sel des ailes, couvant les perles bouillantes, faisant chambre à part moissonnant grâce, amour et douceur, dans les architectures de son dos, ses fesses. Illuminant le grand éloquent discours chanté à bras le corps à la fenêtre, son bras démonte goutte à goutte en cascade la source du bonheur. Sur les marbres chiffonnés des draps bleus pervenches, la nuit couvre le linon de sa face du vol d'oiseau, rit dans la glace de ses doigts poisseux, couvert du miel des ruches, raclé au satin des étoiles. L'arche du pont cabre ses reins sous les cordes de la harpe, la majuscule de son nom déchire la toile et découvre sur le tableau la source. D'amande, sucre le fond du lac, du phare huilant son corps, du grillage de ses morsures, un voile de cendre étouffe les cris du soleil, pris à bras le corps par l'absence, une étoile de mer remontant grinçant ses pleurs, l'enfant pleine de baisers au bout de la corde, la chèvre bat son plat et chasse le loup de la reine, l'amour trahit ses armes et mord la poussière en tapant de ses ailes contre les vitres, on entend l'heure assise au bord de la chute. Des fous, l'orchestre joue la rumba. La fille du cordonnier, la fille du mitron, la fille des pigeons, la fille du filleul, la fille de papa, la fille de maman, la fille de sa fille et la fille mineure, et la fille du père et la fille de la mère, la fille de l'aïeul et la fille du papa, et la fille du géant, la fille du nain, tous et toutes les filles naturelles tardives de ces eaux du pays. Du peuple de plaisir, vie publique assise, couchée debout, à genoux sur une chaise, endormie, réveillée, grosse, maigre, silencieuse, bavarde, sale cochonne, propre, intelligente, bête ordonnée, caressante, acariâtre, et tous les garçons danseurs du pays des alentours, fils de putain, fils de curé. Les caisses à punais, ciel bleu étoilé, nuages roses mordorés, citron vert amande, le premier qui rira aura la claquette et les chiffres magiques pour les compter, le X, le Z, les 24 premiers démons, du mois la boîte à sel, les laitues, le melon, les plantes aromatiques et la boîte à malice, du fin fin de l'histoire et les bonjours, bonsoir et merci merci de toute la compagnie. Tout coule feuille s'y termine ce roman feuilleton pour amorcer la suite du prochain historiquement. Mise en langue vulgaire par les soins méticuleux et jaloux du saint auteur me garde. Immobilisant la source où se livre, toi.
poils cirés, étendu sur la lune pleine. Croche dans la porte, des oubliés tricotons chuchotés à la serrure bouchée par l'empreinte de cire calculant l'étendue du désastre. Jambes ouvertes en éventail, la chaise à genoux tenant pressée entre ses doigts, sur sa poitrine la chemise de nylon offrant ses champs d'avoine au jet de la fontaine, attaché au gibet soutenant la nuit la tranche de melon. Morte en folle d'amour, la plus crochue du vol démesuré des pivoines. Le soir arrive à point, éclaboussé d'épingles et pâle pour constater la chose et tirer le sac de maraud du feu.
Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée au thème Picasso, poète inconnu. Autant le peintre est célèbre, qui n'a pas ce nom en tête, autant le poète ne l'est pas. Bernard Ascal a entrepris une réhabilitation du poète en réalisant un travail de mise en musique, de poèmes et de diction de textes de Picasso. Il est avec nous en duplex téléphonique et nous avons le plaisir de pouvoir à la fois converser avec lui sur ce projet maintenant réalisé, récent, hein, 2013, la publication, et puis sur les conditions dans lesquelles il a pu le faire et les motivations qui l'ont amené à s'intéresser, non pas à la peinture, puisqu'étant peintre lui-même, il était complètement dedans d'emblée, comme il est aussi chanteur, compositeur, interprète, auteur. Tout cela allait bien pour faire un travail de spectacle, mais aussi d'écriture autour de ces textes de Picasso. Bernard, bonsoir.
Mais bonsoir.
Voilà,
bonsoir Jean-Pierre.
J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises en présentant ton projet sur lequel tu vas nous en dire beaucoup plus et avec beaucoup plus d'exactitude. Donc ce projet maintenant réalisé qui est à la fois un ouvrage et deux CD ou deux CD qu'on peut trouver séparément dans le commerce. Dommage à Picasso, poèmes et propos s'intitule l'ouvrage. Alors, comment t'es venue cette idée, une rencontre avec des documents
Non, alors absolument pas. C'est en fait une longue histoire qui est un peu équivalente à celle d'Aimé Césaire, c'est-à-dire que Picasso fait partie des quelques personnes qui m'ont accompagné tout au long du chemin, et donc le chemin commence à compter un certain nombre d'années. Et j'ai toujours été très très passionné par la peinture de Picasso, et je connaissais depuis fort longtemps c'est à la fois ses écrits et ses poèmes. Et il faut dire, enfin, par rapport à la question que tu viens de me poser, que plusieurs des écrits de Picasso ont pour moi été véritablement des moteurs. Alors, il y a une citation, celle par laquelle je commence d'ailleurs ce travail, c'est « Quand je n'ai plus de bleu, je mets du rouge ». Cette phrase, quand elle est proférée, est souvent reçue comme une forme de désinvolture par rapport au public. Et moi, je la ressens totalement différemment, et je l'ai toujours ressentie différemment. C'est-à-dire, pour moi, elle signifie que on ne doit jamais être l'esclave de ses moyens, et que si les conditions sont telles qu'on ne peut pas avoir l'idéal, c'est-à-dire le bleu, eh bien, ce que l'on a à dire, ce que l'on a à faire, on le fera avec les moyens à notre disposition, en l'occurrence du rouge. Donc, je la vois plutôt comme une phrase de libération de toute expression. Et de la même manière, une autre phrase de Picasso qui a été aussi fort importante pour moi, c'est que il dit là je cite approximativement, quand je lis un livre sur la physique d'Einstein auquel je ne comprends rien, ça n'a pas d'importance parce que je vais comprendre autre chose. Et par rapport à notre éducation à l'école, où les mots ont un sens, où la phrase porte un véritable déterminisme de sens, cette affirmation était une véritable ouverture là aussi. Alors voilà, deux phrases qui ont été pour moi très très porteuses. Et concernant après la réalisation du projet, c'est-à-dire bon ben c'est quelque chose dont je rêvais depuis très longtemps, mais de la même manière que pour Aimé Césaire, il me fallait vraiment rassembler mes forces, et parce que je savais que je m'embarquais pour plusieurs années de travail créatif dans un premier temps, puis ensuite, j'ose l'espérer, plusieurs années après à porter et à défendre le projet. Et ce projet, tu l'as évoqué, en fait, a une double forme dans sa parution. C'est le projet initial, il est un double CD qu'on peut donc trouver chez les disquaires, et c'est là le double CD qu'on comporte un livret dans lequel j'ai reproduit l'ensemble des poèmes, puis évidemment une biographie de Picasso et différents éléments. Et puis, étant donné que nous avons pu avoir accès à des reproductions des manuscrits de Picasso, à la possibilité de reproduire des toiles et à la possibilité aussi de reproduire les propos, à un moment, je me suis aperçu que je disposais de la matière d'un livre, ce qui n'était pas du tout l'idée de départ, mais à partir du moment où je voyais toute cette matière première là s'assembler, évidemment, s'est posé le problème d'avoir une deuxième version, qui est une version livre, alors qui là est évidemment diffusée en librairie, et le livre contient bien sûr les deux CD qui sont les mêmes que l'édition double CD.
C'est un bel objet, ce livre, hein. Il a été soigné.
Alors, là, juste, je t'avertis que je ne t'entends quasiment pas, là. Je veux bien dialoguer, mais j'ai peur de te donner de partir sur des pistes qui ne sont pas celles que tu attends. Ceci étant, je peux rester quand même sur le sujet.
Que la technique me permette de faire beaucoup mieux. Enfin, on va essayer. Je ne sais pas si en approchant le téléphone comme ça, ça va aller mieux pour toi.
Ben écoute, je te dirai sinon.
Ouais. Oui, je disais que ce livre était vraiment un bel objet par le graphisme, par la calligraphie, par les reproductions de Picasso aussi, reproductions de documents.
Enfin, oui. La maquettiste a fait un travail formidable, elle s'appelle Stéphanie Leroux. Je suis content de la nommer parce qu'elle est toujours très pertinente dans son approche, et elle amène elle aussi un véritable travail de création. Et c'est très agréable évidemment de travailler avec des gens qui portent le projet qui vraiment porte le projet aussi. Bien entendu, ce que je viens de dire pour Stéphanie, je peux le dire pour toute l'équipe de musiciens, pour Jean-Michel Charbonnel, qui est mon compagnon de contrebassiste et qui a aussi assuré la direction musicale, pour sa compagne Cécile Charbonnel, qui intervient en tant que chanteuse et en tant que diseuse, puisqu'il y a un disque chanté et un disque de diction. Et Cécile, j'ai déjà travaillé plusieurs fois avec elle, bon, Jean-Michel est beaucoup, et donc là c'est véritablement des relations de complicité, et on est toujours heureux de pouvoir reprendre un nouveau projet et de pouvoir le porter ensemble. Hein. C'est un privilège parce que ça permet de travailler dans des conditions très confortables. On a à se soucier exclusivement du but que l'on cherche à atteindre sans perturbations annexes.
Ouais, bah, je te propose qu'on écoute une des plages interprétées par Cécile Charbonnel avant de parler à nouveau de la poésie de Picasso puis de ton travail de mise en musique sur ses textes. Ça pas évident, quoi. Hein. Alors,
volontiers,
on écoute
volontiers.
Cécile Charbonnel. Le titre s'appelle, oui, j'ai oublié de le citer, « Quel triste sort ». Donc, paroles Pablo Picasso, musique Bernard Ascal, interprétation Cécile Charbonnel. J'ai oublié de dire qu'au début de l'émission, on a entendu deux petits textes qui sont des extraits, donc des textes de Picasso quand j'étais enfant, et puis la plage musicale, enfin chantée par toi-même, et « Qu'importe si les roues », donc un texte de Picasso que tu as mis en musique.
Quel triste sort, celui de la chaise percée, de la vieille mandragore, borgne, haché, menu, cousu de fil blanc à la robe de mariée, du coup d'épée donné à la flamme du bec de gaz, de l'aurore boréale étendue, asséchée sur la fleur évanouie, de l'étoffe de soie mauve, du rire jaune citron, des contes à dormir de coquet désir d'offrir la main de révérence au poil de la bête en colère. Écoute, l'oreille collée à l'arôme du thym, les coups de fouet dans ses chevilles, et quel triste sort mendiant éprouvé aux caresses, celui la chaise percée, 2000 printemps apporte les regrets du miroir de sa plaie à la chemise en toile d'araignée de la vieille mendiante, inscrite sur le dos du libre arbitre, manger des vers de l'épingle qui traverse la tige de la fleur d'orange, piqué au centre du rideau qui couvre la mandragore.
Quel triste sort, un poème de Pablo Picasso. Donc, avec Bernard Ascal en duplex téléphonique, on va continuer d'évoquer son travail et la poésie de Picasso, qui, curieusement, a écrit son premier texte, enfin du moins dans ceux qui sont retenus là, et je pense que ces textes répertoriés poétiques, en 1935, alors qu'il avait déjà 54 ans et sur une période qui l'amenait jusqu'en 1960. Donc la peinture, c'est une palette, on peut dire, beaucoup plus large, la poésie beaucoup plus étroite. 1935, pas longtemps après, le 26 avril 37, il y avait Guernica, donc, d'où le tableau qu'il avait produit par rapport à l'événement de, en juillet 37, était déjà exposé à l'exposition universelle de Paris. Mais je te donne la parole, Bernard, pour nous dire comment tu ressens la poésie de Picasso. C'est une poésie en vers libre ou même pas en vers du tout. Hein. Et puis, peut-on l'assimiler à une poésie surréaliste? C'est même pas sûr, bien qu'il y a des rapprochements de temps en temps.
Oui, alors, ben, comme tu viens de le signaler, là, en fait, Picasso entame cette, ce pan de sa création à l'âge de 54 ans. Donc, c'est quelqu'un qui est en pleine... bon, il est au fait de la gloire depuis très très longtemps. Et à 54 ans, il est aussi en pleine possession de tous ses moyens artistiques, y compris... de ceux liés à l'écriture. Aussi, on n'a pas de, on n'a pas de, d'étapes transitoires, de textes qui peuvent apparaître comme des, comme annonçant ce, ce qui va advenir dans, dans sa poésie. Et entre, donc, à partir du moment où il entame ce, ce travail, cette œuvre poétique va s'étaler sur 25 ans, ce qui est quand même considérable dans la vie d'un, d'un artiste et d'un homme en, en général, hein. Mmh. Et il va au total à peu, écrire environ 350 poèmes, dont les deux tiers vont être écrits en français et un tiers écrit en, en espagnol. Alors, tu me demandais si on pouvait considérer que c'était une poésie liée au surréalisme. Disons qu'elle a toutes les apparences de la poésie surréaliste et beaucoup de... On a vraiment envie de la caractériser par le terme d'écriture automatique. Mais là, le bât blesse deux fois, d'une part parce que Picasso s'est toujours défendu d'être surréaliste, y compris d'ailleurs dans, dans sa peinture, où il a toujours clairement annoncé qu'il était réaliste et pas du tout surréaliste. Et quant à l'écriture automatique, ses poèmes ont été ont bénéficié de, si je puis dire, de nombreuses reprises, de nombreuses versions, et donc on est loin du flot direct de l'écriture automatique, puisqu'on a affaire à des textes travaillés, martelés, ciselés, repris. Les divers états en témoignent, et sur certains des manuscrits, on voit toutes ces indications, toutes les ratures, les remplacements de mots. C'est très passionnant à consulter, et on voit à quel point là forge sa langue. Donc voilà, en dépit de des, il y a une illusion de d'écriture automatique. Maintenant, ses liens par rapport aux surréalistes notamment sont très très forts. Donc qu'il y ait des ponts, qu'il y ait des connivences, c'est absolument évident quand même. On peut dire aussi que Picasso, qui se met à écrire tardivement donc des poèmes, a tout le temps baigné dans la compagnie des poètes, et quand il s'installe en France, il s'installe chez Max Jacob, et Max Jacob l'initie à la littérature française. On a des récits, on sait qu'il lui lisait Racine, enfin il lui fait découvrir la littérature française. Et par ailleurs, Picasso était très lié à Apollinaire, et là aussi, il y a une... Picasso était très à l'écoute, très attentif, et assimilait très très vite, et donc ne serait-ce qu'avec ces deux maîtres-là, il avait de quoi pouvoir entamer son œuvre au moment où il le déciderait. Et du premier poème, donc, qui est daté de 1935, jusqu'au dernier, qui se situe en 1959, on a on a donc un ensemble de ces 350 poèmes que j'ai évoqués là, et qui sont parfaitement homogènes dans l'écriture. Alors après, vraiment, quand on rentre dans les détails, on peut, bon, il y a des modifications de thématiques, dans le vocabulaire, mais globalement, c'est véritablement une masse très homogène. Alors, concernant leur apparence, quelques-uns sont écrits sous forme de strophes, on va dire, mais globalement, on a affaire à des pavés. On a plus l'impression d'avoir un bloc de prose sans aucune ponctuation, et cette absence de ponctuation, cette absence de blanc, de par exemple d'aller à la ligne, de se, vous voyez, de d'aération dans le texte, rend d'autant difficile l'accès.
Est-ce que tu vois un rapprochement entre sa peinture et son écriture?
Y a-t-il un rapprochement entre sa peinture et son écriture? Il y a évidemment des ponts, parce que le peintre transparaît de partout dans les poèmes.
Dans les thématiques.
Certains des poèmes sont basés, sont basés sur le métier de peintre, sur les couleurs. Il y a vraiment une fabuleuse jubilation à manipuler tous les noms de couleurs. Mais il me semble que l'exploration d'ordre poétique est d'une autre nature que celle de la peinture. Et je pense que c'est parce qu'il s'offrait le plaisir d'explorer un autre pan de ses possibilités créatrices, qu'il s'est embarqué avec tant de passion. Je veux dire par là que même si les poèmes sont foisonnants d'images, il y a une véritable saturation dans les propositions, alors que dans les tableaux, on a affaire à un sujet ou à un autre, mais on n'est pas dans une multiplicité de sujets à l'intérieur d'un même tableau. Alors que là, dans un poème, on a véritablement la tête tourne tellement est forte la profusion. Et de ce point de vue, donc, je vois une très forte différence dans le cheminement artistique. Et en tout cas, les poèmes ne sont pas une illustration de la peinture. Ça me paraît absolument certain. Alors il y a un poème qui est d'ailleurs très intéressant dans sa genèse, puisque en fait Picasso fait un dessin, puis le lendemain refait un dessin à partir du premier dessin, le jour d'après refait deux dessins qui suivent, donc le dessin numéro 2, 3, et à l'arrivée, on a le poème qui naît du dessin, c'est-à-dire totalement l'inverse de ce qui parfois se produit. Et c'est très intéressant de voir les étapes, et ça, j'ai pu les reproduire, notamment dans le livre, j'ai pu reproduire toute la suite, là.
Et la mise en musique de ces textes, alors, c'est une opération facile, ça?
Alors,
c'est bien que tu es habitué à faire des choses particulièrement ardues, hein.
Oui, alors là, évidemment, je dois reconnaître qu'avant de... Bon, il y avait le désir. Le désir de me consacrer, après Aimé Césaire, de consacrer une part de mon énergie à Picasso, ça, ce désir-là était très fort. J'étais pareil, mais pour des raisons différentes de celles d'Aimé Césaire, j'étais en droit de me demander si j'allais parvenir à trouver ma place dans cette œuvre. Et donc avant de demander à la Fondation Picasso l'autorisation de mettre en musique, j'ai travaillé pendant un an ou deux vraiment, j'ai envie de dire, dans le plus grand secret, dans la plus grande intimité pour moi-même, de manière à voir si ma sensation de bien-être avec ces poèmes se confirmait quand je les disais, donc quand je passais à l'oral, et surtout quand je commençais à ébaucher des musiques. Alors, il m'a semblé que que je me sentais vraiment bien. Je dis pas que entendons-nous bien, je dis pas que j'ai réussi mon entreprise, mais en tout cas, moi, dans le rapport au texte, j'étais vraiment heureux, à l'aise. Je trouvais les respirations. Je ne me noyais pas dans cette matière magmatique tellement difficile à pénétrer. Et à partir du moment où j'étais convaincu de cette aisance que j'avais, hein, de ce bien-être que j'avais, j'ai pris contact avec la fondation. Voilà comment ça s'est fait. Mais bien entendu, la mise en musique ne peut pas être une opération directe, simple, puisqu'il n'y a aucun vers régulier, il n'y a rien sur lequel prendre appui, surtout lorsqu'on veut rejoindre la forme chanson. Et que par ailleurs, on souhaite respecter à la lettre le poème, chacun des poèmes, c'est-à-dire partir du premier mot, terminer au dernier, ne pas créer de refrain, mais par contre, parce que j'avais l'impression, en dépit de leur caractère compact, qu'en fait, il y avait une véritable limpidité dans ces textes, m'appuyer sur la forme chanson, qui elle est une forme très simple, très épuré, me permettait justement de dégager de mettre en avant cette simplicité que je sentais dans les textes. On pourrait être en droit de se dire par rapport à de tels poèmes, une expression free jazz aurait été plus appropriée. Alors, c'est une pensée qui m'a traversé, mais en fait, je trouvais que ajouter à une forme complexe une autre forme complexe allait dans le sens contraire de ce que je souhaitais, puisque pour moi, véritablement, c'était cette espèce de force, j'espère avoir fait apparaître une espèce de colonne vertébrale très dynamique. Voilà. Et la chanson, de ce point de vue-là, est un révélateur merveilleux.
Eh bien, on va vérifier tout ça. Et je te propose qu'on écoute une autre plage, Carte à jouer cachée, donc, que tu as mis en musique, que tu interprètes.
Carte à jouer cachée au beau milieu du ras de marée, du silence joué entre les draps tendus de la harpe éolienne, des marbres griffés aux genoux par l'huile des amphores posées dessus, l'accoutumance, les risques, les danses et cabrioles, faisant la haie du cortège des grâces, portant dans ses cheveux la lumière. Arraché au fil tendu de l'alcôve, les bras du fauteuil recevant la charge, en pleine poitrine, goutte à goutte, le soir défait ses rubans, sous la robe de beurre fondue du carré bleu, imitant à s'y tromper la nuit, frappant ses lèvres sur la glace, un papillon défait ses ailes, en cachette et accroche ses sabots au cristal grelottant de la lune. Demande paquet bleu et rose de praline, les crocs acidulés du mauve coupant les feuilles vertes du paquet de praline, du rose bonbon de fifre, 3,93 francs la guimauve, le chocolat glacé, 385 francs les pastilles de menthe et le tout, la somme de la somme de la somme. Soir de mai, quel train d'enfer et quel samba le singe lui prie. Et le réveil matin, l'heure du bonheur, et signe avec sa queue sur le registre.
La pantoufle bleue à dessin chinois soupire le plaisir traînant ses tripes dans l'arène. Un bouquet de glaïeul cloué au granit déchire ses chaînes dans le miel. La lune cache son jeu et met le feu doucement aux nuages. Un âne prêt au loin.
Carte à jouer cachée, c'est donc un texte de Pablo Picasso mis en musique et interprété par Bernard Rascal. Bernard Rascal pas tout seul d'ailleurs, c'est peut-être le moment de dire quelques mots de l'équipe de musiciens qui t'entourait pour cette réalisation.
Avec la plus grande joie. Alors c'est une équipe donc avec lequel bon, j'ai évoqué tout à l'heure là Jean-Michel Charbonnel et puis Cécile Charbonnel, et en fait comme à chaque fois je retrouve aussi quelques autres hommes avec lesquels j'ai déjà travaillé, et puis aussi je fais la connaissance de nouvelles personnes, et c'est souvent grâce à Jean-Michel qui auquel je fais toute confiance pour me faire découvrir de nouveaux partenaires musiciens. Alors en l'occurrence là, mais pour le coup là c'était pas notre premier projet, c'est Nicolas Noël qui est au piano, Olivier Louvel au banjo et aux guitares, un autre guitariste qui est vibraphoniste et là que je ne connaissais pas, qui est Gabriel Gosse. Je retrouvais avec grand plaisir Rémi Biet au saxophone, à la flûte et à l'harmonica. Je découvrais par ailleurs Stéphane Chauss qui lui intervient sur le CD numéro 2 dans toutes les parties qui relient les différentes dans tous les intermèdes musicaux de du disque 2. Je faisais aussi la connaissance de la violoncelliste Catherine Fléau et du trompettiste Julien Écrepon. J'ai découvert un tout jeune accordéoniste qui se nomme Éric Allard-Jacquin et un merveilleux tromboniste aussi, Yves Morel, au violon Sébastien Guillaume et puis André Charlier aux percussions et à la batterie. Et je dois dire qu'avec tous, le courant est passé vraiment très très bien et ça a été un vrai bonheur.
Ça fait beaucoup de monde tout ça pour...
Oui, mais bah, par exemple
sur toutes les places,
par lequel tu as démarré là, et qu'importe, il est vrai que pratiquement tout le monde est présent, mais après suivant les titres, l'entier de l'équipe n'est pas requis. En fait, c'est au fur et à mesure du travail et au fur et à mesure de l'écriture musicale que l'instrumentation devenait évidente et s'imposait. Donc à partir de là, évidemment, on a bâti l'équipe, mais je n'avais pas... c'est pas une équipe préconçue, c'est véritablement le travail... les résolutions musicales, les résolutions de chant qui ont amené à constituer l'équipe. Alors après, bien entendu, en fonction de l'esprit qu'on voulait dégager, le fait de vouloir rester, d'affirmer un véritable esprit de jazz, mais en même temps d'être fortement nécessité d'avoir des partenaires instrumentistes qui soient à l'aise sur les deux formes. Hein. Ça, c'est l'évidence, là.
Voilà, ben on arrive au moment où peut-être il faut qu'on parle de l'aspect politique de Picasso dans ses textes, puis dans sa vie aussi en même temps, puisqu'on sait qu'il s'est affilié au Parti communiste. Je ne sais pas s'il avait pris sa carte ou s'il était un compagnon de route, c'est peut-être ça. En tous les cas, il a laissé un certain nombre de textes dans lesquels, on va l'entendre d'ailleurs, il s'affirme communiste et il explique un peu sa position.
Oui, alors, si tu veux, auparavant, j'aimerais, alors, à ce moment-là, nous abordons le disque 2, qui est un disque de diction, et j'aimerais dire qu'en fait, dans ce projet, m'importait énormément de mettre en parallèle la parole, la langue poétique de Picasso, langue dont je crois... chacun aura compris qu'elle est assez difficile d'accès, et par ailleurs, la langue de Picasso, quand il s'exprime, alors aussi bien sur son engagement politique que sur ses réflexions sur l'art en général ou sur sa pratique personnelle, et là, on a affaire à une langue excessivement directe, qui peut être comprise véritablement par tout le monde. Il n'y a pas du tout de terme qui ramènerait à quelque chose de très savant. Picasso utilise véritablement le langage de la rue. Et là, j'étais vraiment intéressé de mettre cette parole si passionnante en parallèle donc avec les poèmes. Alors, quand je dis que cette parole est passionnante, avant d'aborder la notion, la partie des écrits politiques, je voudrais prendre un exemple. Il s'exprime sur son amour des graffitis, et il découvre les graffitis au tout début des années 1900, donc il a 20 ans. Et il fait des relevés de graffitis, et... Donc il s'exprime sur sur tout ce qu'il découvre dans les graffitis en termes donc d'expression graphique là, et il n'y a que quelques mots à changer pour se retrouver dans la problématique des graffeurs d'aujourd'hui. Et je trouve vraiment étonnant que pratiquement un siècle en avance, il annonce ce dont quoi nous sommes témoins actuellement. Hein. Et sur plusieurs autres sujets, on a exactement le même phénomène. Alors, en ce qui concerne ce rapport à la politique, effectivement, Picasso affirme très fortement son ancrage au sein du Parti communiste dont il a été membre, et mais au-delà de cet ancrage dans le communiste, il affirme aussi son fort ancrage à, j'ai envie de dire plus généralement, à gauche, et le fait qu'il demande à la peinture d'être un acte révolutionnaire, d'être un acte de révolte, d'être un acte qui doit déranger. C'est permanent dans sa réflexion. Et dans, parmi les... nous clôturerons là par un poème qui s'intitule La lueur de l'huile, qui est un poème, un des rares poèmes en fait, qu'il a écrit en mémoire d'un militant communiste grec qui a été exécuté. Il avait auparavant participé à des protestations et à des signatures pour essayer de le sauver. Ça n'a pas... ces tentatives ont échoué. Et sous le coup de l'émotion, là, il écrit un poème qui est très directement lié à cet événement. C'est un des poèmes qui est le plus événementiel dans son œuvre. Là. Oh, c'est... Bien entendu, par avant, au moment de Franco et au moment de Guernica, là aussi un très long texte totalement provoqué par les atrocités de la guerre d'Espagne.
Voilà, donc ce texte dont tu viens de parler, La fleur de l'huile, on l'entendra à la fin de la séquence, qui va être un petit peu longue, 7 minutes, un espèce de montage, si on peut dire, de plage, donc enregistré sur le CD de texte, et puis encadré par des parties musicales. Donc on pourrait appeler ce petit montage radiophonique Picasso communiste.
Que croyez-vous que soit un artiste? Un imbécile qui n'a que des yeux s'il est peintre, des oreilles s'il est musicien, ou une lyre à tous les étages du cœur s'il est poète, ou même, s'il est un boxeur, seulement des muscles? Bien au contraire, il est en même temps un être politique, constamment en éveil devant les déchirants, ardents ou doux événements du monde, se façonnant de toutes pièces à leur image. Comment serait-il possible de se désintéresser des autres hommes et en vertu de quelle nonchalance ivoirine, de se détacher d'une vie qu'ils vous apportent si copieusement? Non, la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi.
La lutte espagnole est le combat de la réaction contre le peuple, contre la liberté. Toute ma vie d'artiste n'a été qu'une lutte continuelle contre la réaction et la mort de l'art. Comment personne pourrait-il croire un seul instant que je sois d'accord avec la réaction et la mort? Lorsque la rébellion a commencé, le gouvernement républicain démocratique d'Espagne, légalement élu, m'a nommé directeur du musée du Prado, fonction que j'ai aussitôt acceptée. Dans le panneau sur lequel je travaille, que j'intitulerai Guernica, et dans toutes mes œuvres d'art récentes, j'exprime clairement ma haine de la caste militaire qui a fait sombrer l'Espagne dans un océan de douleur et de mort. Mon œuvre n'est pas symbolique. Mon Guernica est la seule toile qui soit symbolique. Dans ce cas, il s'agit d'une allégorie. C'est pourquoi j'ai pris le taureau, le cheval, etc. Cette peinture est l'expression précise et la solution d'un problème, d'où mon utilisation du symbolisme. Je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément, de distraction. J'ai voulu, par le dessin et par la couleur, puisque c'était là mes armes, pénétrer toujours plus avant dans la connaissance du monde et des hommes, afin que cette connaissance nous libère tous chaque jour davantage. J'ai essayé de dire, à ma façon, ce que je considérais comme le plus vrai, le plus juste, le meilleur, et c'était naturellement toujours le plus beau. Les plus grands artistes le savent bien. Oui, j'ai conscience d'avoir toujours lutté par ma peinture, en véritable révolutionnaire, mais j'ai compris maintenant que cela même ne suffit pas. Ces années d'oppression terrible m'ont démontré que je devais combattre non seulement par mon art, mais de tout moi-même. Et alors, je suis allée vers le Parti communiste sans la moindre hésitation, car au fond, j'étais avec lui depuis toujours. Aragon, Éluard, Cassou, Fougeron, tous mes amis le savent bien.
Si j'étais un chimiste, communiste ou fasciste, si j'obtenais un liquide rouge dans mes mélanges, cela ne voudrait pas dire que je fais de la propagande communiste, n'est-ce pas? Si je peins une faucille et un marteau, on peut croire que c'est une représentation du communisme, mais pour moi ce n'est qu'une faucille et un marteau. Je veux reproduire les objets pour ce qu'ils sont, non pour ce qu'ils signifient. Quand les gens les regardent, chaque personne tire peut-être un sens différent de ce qu'elle voit dans ces objets. Moi, je ne pense pas y mettre une signification particulière. Il n'y a pas d'intention voulue de propagande dans ma peinture. Sauf dans Guernica. Il y a là un appel voulu au peuple, un sens délibérément propagandiste. Je suis communiste et ma peinture est de la peinture communiste. Mais si j'étais cordonnier, royaliste ou communiste, je ne serais pas obligé de clouer mes souliers d'une manière spéciale pour montrer mes opinions politiques.
Le moi intérieur, il est forcément dans ma toile, puisque c'est moi qui l'a fait. Je n'ai pas besoin de me tourmenter pour ça. Quoi que je fasse, il y sera. Il n'y sera même que trop. Le problème, c'est le reste.
Je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas de compétences techniques dans ce domaine. Mais le communisme défend certaines idées en lesquelles je crois. Je crois que le communisme travaille à la réalisation de ces idées. Je suis communiste pour qu'il y ait moins de misère. La nuit dans le Madrid du soir de mai, les nobles faces du peuple fusillé par l'étranger rapace dans le tableau de Goya est le même grain d'horreur. Semé à pleine poignée de projecteurs sur la poitrine ouverte de la Grèce par des gouvernements suant la peur et la haine. Blanche saupoudre la colère de son deuil sur la terre.
Cette longue séquence consacrée à Picasso, peintre et communiste, donc. Il nous reste maintenant quelques minutes pour dire tout ce qu'on n'a pas encore dit autour de ce projet qui est devenu une réalisation. Tu avais quelques idées de choses à évoquer encore?
Par exemple, je pourrais dire que sur ce deuxième disque-là, qui donc est un disque de diction consacré à aux réflexions de Picasso, les sources ont été diverses. Alors, il y a notamment, source première, évidemment, les propres écrits de Picasso, puisqu'il a écrit, en fin de compte, de nombreux articles, et donc là, il suffit de se reporter à ces articles. Et puis, de nombreux de ses propos ont été rapportés par André Malraux, par Brassailles, par Hélène Parmelin, par Claude Roy, Roland Penrose, Françoise Gillot et bien d'autres. Et quelque chose est très intéressant quand on lit tous ces propos rapportés, c'est que les uns et les autres rapportent les propos de Picasso de la même manière à quelques mots près. Mais c'est véritablement toujours le même sens. Par contre, qui est très passionnant à voir aussi, c'est que en fonction de ses interlocuteurs, Picasso aborde certains sujets. Alors, par exemple, c'est avec Brassailles qu'il évoque sa relation au graffiti, et on sait le rapport que Brassailles avait avec les graffitis, le travail de fond qu'il a mené sur les graffitis. On peut tous avoir en mémoire la couverture de Parole de Jacques Prévert, qui est une des photos de graffitis de Brassailles. Avec André Malraux, Picasso aborde sa relation à l'art africain, à l'expression nègre en général, et c'est une expression là de cette découverte de l'art nègre est tout à fait troublante et passionnante, d'autant que à la fin de cette Picasso exprime ce qui d'après lui le sépare, s'il y avait globalement un engouement pour la culture africaine et pour la culture noire, Mais Picasso tient à dire que pour lui, il s'agissait d'un bouleversement d'une autre nature, qu'il était véritablement ébranlé au plus profond de lui-même. Et là, il trace une ligne de partage entre lui et ses autres compagnons peintres, qu'il s'agisse de Matisse ou de Braque, où il a l'impression que le rapport à l'art africain est d'une toute autre nature. Donc c'est en lisant tous ces ouvrages et en les rassemblant que j'ai constitué, en procédant à des extractions, que j'ai constitué ce portrait de Picasso par lui-même. Évidemment, on aurait pu prendre d'autres extraits. Alors, d'une manière très très volontaire, j'ai écarté tout ce qui touchait à la vie privée, que je ne trouvais pas servir le propos. Et je n'ai vraiment gardé que ce qui était de la réflexion qui pouvait se partager avec tout un chacun actuellement.
Bien, ben écoute Bernard, il me reste à te remercier et puis on va se quitter en écoutant une autre dernière plage, mais enfin on n'aura pas épuisé bien entendu le CD puisque il est bien rempli. Ciel, 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 ou non, Do, 3, Ré, Mi, c'est un peu mystérieux ça, Do, 3, Ré, 1, et Mi, 0. Un texte de Picasso aussi que tu as mis en musique. Je te remercie et puis on se donne rendez-vous.
Mais c'est moi aussi qui te remercie et puis je remercie aussi tes auditeurs de leur attention. Voilà, merci beaucoup à toi.
Bonsoir.
Do, 3, Ré, 1, Mi, 0, Fa, 2. Celui de la 3, 6, 7, Do, 3, Do, 22, Si, 9, La 12, Sol, 5, Fa, 30, Mi, 6, Ré, 11 et demi, Do, 1, Do, 333, 650, La, 4, Sol, 17, Fa, 303, Ré, 1, Mi, 106, Si, 33, millions, 333, 1333, Mi, 10, Si, 44, La, 9, Sol, 22, Fa 43, Mi 0, 95. La main fait l'ombre portée que la lumière lui laissait faire. Et pour de silence, la somme des chiffres 3, 5, 10, 15, 21, 2, 75. Et l'écharpe qui flotte emportée par les griffes du cheveu, ses ailes déployées, tournoyant, ivre de liberté. Dans le bleu des raies du corsage à ciel ouvert de l'infini. Do, 3, Ré, 1, Mi, 0, Fa, 2. Ce 3, la 3, Mi, 6, 7, Do, 3, Do, 22, Si, 9. La 12, Sol, 5, Do, Fa, 2, la 3, Mi, 6. Si, 11 et 12, Do, 1, Do, 333, 650, la 4. Fa
333, 1, 2, 3, 33, 6, 50, 1, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 6, 33, 5, 43, 1, 0, 95. Thank you.